Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Allez, c'est le dernier instant M de la semaine. On est ensemble jusqu'à 10h.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le polar s'est extirpé depuis un bail de son ornière, le roman de gare, genre majeur de la littérature, désormais ayant droit aux éditions les plus prestigieuses, comme la Pléiade pour Simenon. Le roman policier n'en demeure pas moins un marché florissant, très populaire, dont les formes d'expression se renouvellent sans cesse, mais aussi les auteurs et les pays qui y contribuent. Certes, le petit roman de poche vendu au maître a disparu, mais il a été remplacé par les séries télé grand public. Et pour bien connaître la télé, justement, je vous dirais même que les ont du mal, un mal de chien à sortir de ce registre pour proposer autre chose aux téléspectateurs. Du polar, toujours du polar. Et pourtant, comme c'est bizarre, il n'existait pas d'émission de télévision consacrée à ce mauvais genre.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Sonia.
Producteur d'affaires sensibles, ça vous dit quelque chose? C'est tous les jours à 15h sur France Inter. Vous venez de lancer Piste Noire tous les samedis à 12h30 sur Polar Plus. Polar Plus, c'est la nouvelle chaîne de Canal Plus dédiée au polar. Alors votre émission, elle est multidiffusée sur cette chaîne. Des dizaines de festivals, des librairies spécialisées, des blogs passionnés et pas d'émissions de télé. Voilà, maintenant c'est fait, ça a commencé ça il y a 15 jours. Et la troisième édition, ce sera demain 12h30. On commence par l'actualité. Fabrice, de nombreux éditeurs ou représentants des diffuseurs de presse, les diffuseurs de presse ce sont vos marchands de journaux, ont souhaité réagir à l'émission de mercredi. Nous recevions Louis Dreyfus, patron du groupe Le Monde, Prestalis qui distribue tous les quotidiens nationaux et 75% des magazines est en train de s'écrouler. Il faut trouver une solution urgente. Sinon, les journaux n'arriveront plus dans les kiosques. Et puis d'ailleurs, les kiosques, ils fermeront. Comme ça, à la fin, il y aura plus rien. Si ce n'est des écrans. Avec nous au téléphone, Maïr Guven. Bonjour Maïr.
Bonjour Sonia.
Vous êtes directeur exécutif du 1. Vous savez, le 1, c'est ce drôle d'hebdo plié en 4 ou en 5 qui se déplie en grand. Un sujet toutes les semaines et des regards croisés d'écrivains, d'intellectuels et de journalistes. Maïr Guven, vous représentez des éditeurs indépendants qui croient au papier à l'envers de tout ce qu'on leur avait dit sur le marché quand ils ont lancé leur journal et qui croient aussi aux marchands de journaux.
Oui, exactement. Donc parmi ces journaux, il y a Philosophie Magazine, oui. Alternative Économique, Society So Film So Foot, il y a America, dont je m'occupe aussi, qui est un grand succès cette année, il y a Politis, il y a le récent hebdo, et Sciences Humaines. Mm-hmm. Et si vous voulez, pour nous, ça a été très curieux, la découverte de la défaillance de Prestalis, surtout la manière dont on nous a informés, c'est-à-dire que début décembre, nous recevons un courrier nous disant que c'est une catastrophe, que Prestalis va très mal, et que Prestalis va retenir 25% de nos recettes pour se sauver. En réalité, c'est un peu comme si mon employeur, ou en tout cas mes employés, recevaient un courrier là aujourd'hui, 16 février, et je leur disais, écoutez, ça va très mal, et je ne vais pas vous verser 25% de votre salaire. Mm-hmm. Parce que c'est très violent, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'information, et d'un coup, une entreprise qui a 1200 salariés, qui fait peut-être 700 ou 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous informe, en tout cas, c'est comme si cette entreprise n'était pas contrôlée, n'était pas dirigée. Que fait le conseil d'administration? Que font les instances dirigeantes? Et on nous explique qu'ils découvrent ça un vendredi ou un samedi. Vous voyez, un peu comme si, je sais pas, c'était un adultère, quoi, un truc comme ça, où on tombe par hasard. Donc là, il ne se passe rien pendant un mois. Et puis après les fêtes, on nous convie à une réunion le 31 janvier, où on nous explique l'ampleur de la catastrophe, 140 millions d'euros, et qu'on a 10 jours pour sauver la situation. Bon alors, si vous voulez, on tombe un peu des nues. Et vous parliez de polar, je vais vous dire que l'affaire Prestalis, ça fera un merveilleux thriller, parce
ah
que
bon
peut-être même Baron Noir saison 3, parce que si vous voulez, cette réunion c'est parti dans tous les sens. Une administratrice judiciaire qui vous explique qu'il y aura peut-être, quand il y a même des ressorts pénals à l'affaire. Donc du coup, on est paumé, on ne sait pas vers où on va. Par contre, ce qu'on réclame, c'est de faire partie des discussions, mmh, qu'également les marchands de journaux soient partie prenante, et que contrairement à la croyance populaire, il y a encore des lecteurs dans ce pays, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de journaux et de magazines qui se vendent tous les ans. Et même des quotidiens, eux qui disent que tout le monde lit sur écran, c'est pas si vrai que ça, puisque j'ai regardé un peu les chiffres de diffusion du Monde, et dans leur compte, ça pèse quasiment entre 15 à 20 millions d'euros par an, les ventes de quotidiens papier. Donc, pour eux, le système ne doit pas s'écrouler non plus.
Donc vous, vous réclamez des états généraux de la presse, vous réclamez plus de transparence, plus de discussion. Est-ce que vous allez pouvoir payer, parce que on va cesser de retenir 25% de votre chiffre d'affaires à vous, éditeur. En revanche, on va ponctionner 2,25% pendant 4 ans. Est-ce que vous allez payer? Est-ce que vous avez les moyens de payer?
Écoutez, nous, oui, le 1 et America, nous avons les moyens de payer. Mais par contre, il y a d'autres petits éditeurs qui, je pense, seront en grande difficulté parce que pour beaucoup, 2,25%, c'est leur marge. Vous voyez, ils peuvent pas faire, ils pourront pas payer, ils seront morts. Mais nous, on n'a aucun problème pour payer. Aucun problème, c'est-à-dire, on a les reins financiers et en plus, moralement, on souhaite participer, on souhaite redresser le système. Par contre, on souhaite que l'effort soit fait au maximum pour les marchands de journaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est une profession extrêmement précaire.
Oui.
Mais c'est une profession qui crée du lien social. C'est une profession qui... peut-être que c'est à l'heure d'Internet, ça paraît un peu désuet, mais nous, on ne le pense pas. Et vous savez, moi, je suis pas très vieux, j'ai 31 ans. Donc j'ai découvert l'univers de la presse très récemment, il y a 4 ans. Et j'ai découvert son dynamisme. J'ai découvert qu'on pouvait lancer des titres. Et j'ai découvert que quand on lance des titres... Quand on renouvelle l'offre, eh bien, il y a un nouveau public qui arrive.
Ah, mais ils s'en lancent toutes les semaines, Maillard Guven, en ce moment. Ils s'en lancent toutes les semaines, partout en France.
Bah, exactement. Mais c'est bien la preuve qu'il y a un dynamisme. C'est, vous savez, on vit dans un monde capitaliste, hein. Je vais pas réinventer la poudre. Quand vous renouvelez l'offre, la demande arrive. Donc, du coup, nous, on croit à ça. On croit à un renouvellement de l'offre. Et aujourd'hui, on est confronté à des grands groupes qui nous expliquent que ça ne marche pas, qui basculent tous vers le numérique depuis 15 ans. Or, le modèle économique du numérique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, point barre à la ligne. À l'heure où le gouvernement nous incite à faire attention aux fake news et veut combattre les fake news, qui mieux qu'une rédaction, et vous le savez mieux que moi, Sonia De Villers, qui mieux qu'une rédaction combat les fake news.
Ouais, merci beaucoup, Maillard Guven. Vraiment, nous, on suit ce dossier de très près parce qu'on pense qu'en effet, la presse, c'est un lien démocratique, un contre-pouvoir et l'expression d'un pluralisme. Exactement. Qui se raconte tous les jours dans vos kiosques à journaux et que c'est très, très important. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci de nous avoir appelés.
Alors, comme chaque vendredi, l'Instant Madeleine, ce matin, je vous offre le coffret édité par Lina des Coulisses de l'Exploit. Alors, les Coulisses de l'Exploit, c'est une émission culte. Là, vous allez avoir une sélection des sujets les plus insolites de cette émission, de l'ORTF. Ça vous est raconté en plus par Jacques Vendroux. Bref, pour tout cela, un mail, l'instantm@radiofrance.com et une bonne réponse. Quel est le nom de cette speakerine très inattendue sur TF1 en 1980?
Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous allons voir tout de suite Automag, une émission d'Yves Gauthier et François Chéneau, magazine de l'automobiliste, réalisé avec la collaboration de la prévention routière. Vous recevrez entre autres sur ce sujet des conseils de gonflage très utiles à votre sécurité.
Quel est le nom de cette speakerine sur TF1 en 1980? Un mot aussi pour Catherine, l'une de nos précédentes gagnantes de l'Instant Madeleine, qui a reçu son cadeau et qui, en retour, nous a envoyé une boîte des véritables Madeleines de Liverdun. Recette secrète inchangée depuis 1922. Merci Catherine, Violaine Ballet, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella en ont plein les babines. Serge Viguier, qui est aux manettes ce matin, n'a pas encore goûté.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Fabrice Drouel est à mes côtés ce matin pour Piste Noire, cette première émission de télévision consacrée au polar. Fabrice, je vous fais écouter le procureur de Grenoble. Il était en direct mercredi sur toutes les chaînes d'information continue.
Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée et que nous avons découvert les restes de l'enfant.
Fabrice, la France vient de vivre coup sur coup les aveux du mari d'Alexia Daval qui l'aurait tuée. Je dis l'aurait parce que des aveux, ça ne constitue pas un aboutissement judiciaire. Et les aveux de Nordal Lelandais, il aurait tué par accident la petite Maëlys. Deux séquences médiatiques phénoménales autour d'aveux. C'est assez rare quand même. J'aimerais bien qu'on parte du réel pour aller petit à petit vers la fiction.
Oui. Alors déjà, ce qu'on pourrait appeler le fait divers, c'est un peu le polar dans la vie. Le fait divers, et y compris quand il est extrêmement douloureux comme celui-là, c'est d'abord une histoire. Et le polar, c'est d'abord une histoire, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça renvoie à ce que disait Gabin sur un film. Gabin disait un bon film, c'est un film avec d'abord, un, une bonne histoire,
oui.
Deux, une bonne histoire, et
oui.
Trois, une bonne histoire. Et le polar, c'est ça. Le plus important du polar, c'est le ressort scénaristique.
C'est le ressort scénaristique et à travers ces faits divers racontés en direct et en temps réel sur les chaînes d'infos, parce que on voit bien aujourd'hui que l'arrivée du procureur, que la déclaration des avocats et des parties civiles et du futur accusé se font en direct. Et c'est devenu des temps forts, c'est devenu des invariants, c'est devenu une narration finalement et un scénar que toute la France vit en direct.
Oui, et moi je m'en aperçois tous les jours quand je raconte des faits divers. Je rappelle quand même que ce qu'on appelle la rubrique police-justice, fait divers, c'est 15% de la programmation d'affaires sensibles, pas plus.
Pas plus, je sais bien.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à habiller affaires sensibles avec un imperméable couleur mastique.
Non,
et un chapeau.
Pas forcément.
Pourquoi pas. Et quand je redécouvre, moi, des histoires comme ça qui ont eu lieu il y a 10, 20 ans, j'en redécouvre toute la force du récit et d'un récit qui dit... Parfois, pas toujours, hein, pas toujours. Beaucoup de choses de la société contemporaine, mais pas toujours.
Mais pas toujours.
Voilà. Bah, parfois, vous avez un crime de jalousie ou juste pour de l'argent, ça dit pas grand-chose de la société. Mais parfois, le fait divers, on dit tellement.
Et ces prénoms qui restent.
C'est
Alexia,
ouais.
Maëlys, Grégory, évidemment.
C'est universel, c'est-à-dire que ces histoires-là sont aussi les nôtres. On s'est accapare, on s'est approprie.
Fabrice, je vous fais écouter Marcel Duhamel, grand éditeur, la série noire, 1961.
Marcel Duhamel, pensez-vous que vos lecteurs cherchent dans la série noire ce que vous avez voulu y mettre?
Peut-être pas consciemment, mais en tout cas, tout ce qu'ils cherchent, c'est un exutoire. Ils sont obligés de vivre en imagination les aventures qui ne peuvent plus, que la vie moderne ne leur permet plus de vivre, n'est-ce pas? Autrefois, ils avaient ça avec le roman de Cap et d'Épée. Or, on peut dire que la série noire remplace dans une certaine mesure le roman de Cap et d'Épée. La vie dangereuse, c'est ça au fond.
Vous voyez, Fabrice Drouel, je me suis posé la question. Pourquoi ceux qui, comme vous, journalistes, creusent le réel, creusent les faits, l'actualité et également le passé, comme vous le faites dans Affaires Sensibles, et s'échinent à en démêler les fils, pourquoi vous nourrir de la fiction, finalement?
C'est vrai que j'ai souvent tendance à considérer que le réel a plus d'audace que la fiction, mais j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà une belle complémentarité entre un fait divers inventé et un fait divers qui existe.
C'est ça, parce que vous maniez le fait divers, on l'a dit, mais aussi le scandale judiciaire, les histoires de grands flics, les grands truands, où on a l'impression que, en effet, le réel suffit largement. D'ailleurs, ça nourrit vos récits tous les jours. Vous comprenez que flics, gendarmes, avocats, médecins légistes, juges éprouvent eux aussi parfois le besoin de basculer dans la fiction, d'écrire, de raconter, de fictionner.
Bien sûr, et moi j'ai découvert, parce que je suis pas un spécialiste de la rubrique police-justice, et j'ai découvert tout ce monde-là qui parfois est théâtral, rituel, je pense au prétoire, mais même dans un commissariat, et chacun joue son rôle, dans ce qui n'est pas une comédie, en tout cas c'est souvent du drame, mais chacun joue son rôle, et c'est comme un petit théâtre avec des personnages, avec des rôles, c'est fascinant.
C'est la fiction, le polar c'est l'arme de la fiction, et en même temps ça reste une peinture sociale, c'est même l'une des règles du genre. Demain vous recevrez dans Piste Noire Jean-Bernard Puy, écoutez-le, en 1990, lui qui a toujours défendu les couleurs du roman populaire.
On sait que je fais partie, moi, de ceux qui apprécient le genre et le passage, soi-disant, à la littérature blanche, comme on dit, au-dessus. Il faut être sûr de soi, quand même.
D'accord.
Parce que moi, j'ai toujours que, par ordre alphabétique, dans une bibliothèque de littérature générale, je serai à côté de Proust, alors que dans une bibliothèque de roman noir, je suis à côté de Pronzini. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi d'essayer d'imiter Pronzini que Proust.
Bon, d'accord.
Ça, c'est Jean-Bernard Puy, c'est l'auteur du Poulpe. Vous le recevez pour ma ZAD, d'ailleurs, que vous recommandez chaudement.
Oui.
Hein, chaudement. Alors, Puy, comme d'autres d'ailleurs, c'est vraiment le polar comme miroir. C'est le portrait d'une époque. C'est à chaque fois une classe sociale. C'est un lieu géographique urbain ou rural. C'est très, très ancré dans la réalité, finalement.
Très ancré, et ça renvoie à ce que vous disiez entre la fiction et le réel. Je vous disais, moi, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que les deux vont bien ensemble. Et typiquement, Laurent Mazade, c'est ça. Il est ancré dans cette réalité qui est l'acronyme le plus célèbre en ce moment, ZAD, mm-hmm. zone mm-hmm. à défendre. Mm-hmm. Donc il est là-dedans avec un parti pris. Je lui ai demandé d'ailleurs si le polar était de gauche. On verra ce qu'il nous répondra. Mais c'est vrai qu'il met en scène les forces sociales d'aujourd'hui. Alors lui, il dit jamais polar, Jean-Bernard Pouy, il dit roman noir, littérature noire. Et dans littérature noire, il y a d'abord littérature. Mm-hmm. Et il insiste là-dessus. Mm-hmm. Et il a raison. Parce que les polars sont parfois très bien écrits, de grands exercices d'écriture. Et toujours la force de l'histoire. Toujours l'histoire, le récit. Vous voyez qu'entre Affaires Sensibles et cette émission Piste Noire, il y a une vraie passerelle. Hein.
Il y a une vraie passerelle. Et Violaine Ballet, notre réalisatrice, a retrouvé les 10 commandements de Raymond Chandler pour écrire un bon polar. D'abord, première situation initiale et dénouement doivent être des mobiles plausibles. Donc ouais. On retiendra le terme plausible. En deux, pas d'erreur technique sur les méthodes du meurtre et de l'enquête. En trois, les personnages, le cadre et l'atmosphère doivent être réalistes. Il doit s'agir de gens réels dans un monde réel. C'est extrêmement intéressant, je trouve, la façon dont ça se tricote hein, entre le réel et la fiction. Le principe de Piste Noire, Fabrice Drouel, c'est que vous êtes entouré de chroniqueurs et que vous mettez sur la table vraiment les expressions les plus polymorphes du polar. Parce qu'on cite énormément la série, on cite énormément le cinéma, énormément la littérature, on va beaucoup moins souvent du côté du théâtre et de la BD.
Et nous, on y va. Je suis bien content. Mmh. Voilà. Bientôt, vous verrez Salomé Lelouch qui a mis en scène la pièce intitulée « Justice au théâtre de l'œuvre ».
Mmh. C'est vrai que le théâtre est rarement associé au polar, le polar pourtant, rarement associé au théâtre.
Et pourtant, un huis clos. Un théâtre, c'est un huis clos, unité de temps et de lieu. Vous faites un polar formidable. Et donc, « Justice » est donnée au théâtre de l'œuvre et ça met en scène ce qu'on appelle les comparutions immédiates, qui est la justice un peu expéditive, parfois. Pas toujours dure, d'ailleurs, parfois compréhensive. Mais on est dans cette atmosphère de justice et de police au théâtre. Et puis la BD, je prends pour exemple le mystère de la disquette molle de Philippe Vallette que nous allons diffuser.
Le mystère de la disquette molle.
C'est formidable.
Je crois qu'on va mettre les recommandations de Fabrice Drouel sur la page de l'Instant M. Parce qu'il y a le week-end qui arrive, il y a peut-être les vacances de février pour ceux qui ont la chance de s'arrêter. Donc ça va faire plein de choses à lire et à regarder.
C'est un polar d'entreprise.
Le mystère de la disquette molle.
Il se passe quelque chose dans une entreprise. Que se passe-t-il?
Voilà, alors moi j'ai retrouvé un très très bel extrait, c'était la bande-annonce du film de Ward Hawks. Je vous raconte, Humphrey Bogart entre dans une librairie, dans une bibliothèque, pardon, en français. Il rencontre Lorraine Bacall, il lui demande conseil, un bon roman à suspense à lire. Elle lui tend le dernier best-seller de Raymond Chandler. Ça ferait un film génial, lui dit-elle. La preuve, ça a donné Le Grand Sommeil.
Can I help you, sir?
Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track like the Maltese Falcon.
Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make.
Mind if I look at it?
The Big Sleep, le film de Ward Hawks. Vous revenez aussi et vous mettez un point d'honneur à revisiter les grands classiques du genre, Fabrice.
Bien sûr, c'est la séquence patrimoniale de cette émission Piste Noire. Et notamment, on a ouvert, enfin, la toute première émission, il y a 15 jours, c'était autour de Melville. Mm-hmm. Jean-Pierre Melville, c'est le pape du polar élégant français, inspiré évidemment du polar des années 40, polar américain des années 40, avec des codes, je vous renvoie au deuxième souffle, au Doulos, au Cercle Rouge, où on a des codes vestimentaires du polar. Alors vous avez des gangsters français, mais qui roulent en voiture américaine, et toujours habillés comme des sous neufs, tirés à quatre épingles avec l'imperméable couleur mastic.
Et il y a un coffret, Melville. Qui ressort.
Le coffret qui ressort. Et Melville, c'est notre roi du polar élégant.
Mais vous savez que Melville a été rediffusé très récemment, dimanche soir, sur Arte, battant des records d'audience absolument incroyables. Une série pour terminer, puisqu'on est, est au rayon conseil, allez-y, une série.
Monster, une série norvégienne qui respecte la chaîne du froid. Quand on regarde, quand on la regarde, on dit qu'on a froid. On a froid, c'est glacial et c'est formidable.
Merci beaucoup, Fabrice Drouel. Alors, trouvez un moyen de regarder Polar Plus et de regarder Piste Noire le dimanche, le samedi midi.
Merci, midi et demi.
Midi et demi. Merci, Fabrice. Et bravo à Jérôme qui a reconnu Casimir. C'était Casimir, c'était la voix de Casimir, c'était la millième de L'Île aux Enfants. Le monstre orange à quatre doigts remplaçait exceptionnellement la speakerine sur TF1. Salut Ali Rebéi.
Salut. Alors, moi j'aime bien Fabrice Drouel. Et oh, moi, j'aime bien Casimir.
Ma mère aussi vous adore.
Ah bon,
sommes-nous vraiment libres? Comment rester libre dans un monde compétitif, ultra-consumériste et individualiste qui a oublié la dimension tragique de l'existence? Eh ben, appelez-nous, hein. C'est pas un sujet de philo du bac, mais appelez-nous quand même. 01 45 24 7000.